Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Deuxième volet d'entretien dans Des clés pour vivre avec cette série consacrée à l'occasion de ce 160e anniversaire des apparitions de Marie et de ce nom qui a été révélé le 25 mars, jour de l'Annonciation 1858, où cette dame qui apparaît à la grotte donne enfin ce nom d'Immaculée Conception à la petite Bernadette. Bonjour frère Marie Guillou.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Et puis, on l'a bien compris, vous allez donc donner un petit peu des clés de réflexion pour mieux comprendre ce terme d'Immaculée Conception. Voilà, Marie se présente tout simplement et enfin, à la 16e apparition, donne sa véritable identité. Ouais. À cette petite Bernadette. On revient du côté du pape, si vous voulez bien, Pie IX à l'époque.
Oui.
Avec cette définition d'immaculée que vous allez très vite nous redonner.
Oui.
On vous écoute.
Effectivement, le 8 décembre 1854, Pie IX, au nom de ce charisme qu'il a reçu du Christ lui-même et qu'il hérite de Pierre, authentifie, définit comme vérité de foi, comme dogme, ce grand mystère de la conception immaculée de Marie. Alors, de mémoire, voici le texte. Définissons et annonçons que par un privilège et une grâce spéciale de Dieu, Marie, dès le premier instant de sa conception, fut préservée et exempte de toute souillure du péché originel. C'est textuellement, pratiquement, ce que le pape a écrit et signé de sa main pour confirmer une vérité qu'il n'a pas inventée. Un dogme, c'est pas une vérité nouvelle. C'est une vérité déjà présente dans l'Écriture, la tradition, mais que le pape met en valeur, qu'il manifeste, qu'il montre pour le bien de toute l'Église.
Donc au fond, en 1858, au moment où Marie révèle son nom à Bernadette, il n'y a aucune révélation de la part de la Vierge Marie.
Voilà. Il y a un dévoilement, une confirmation, mais d'une vérité que l'Église tient depuis toujours. Depuis toujours, l'Église a cru que Marie était toute sainte. Mais il est vrai qu'à certains moments de son histoire, l'Église éprouve le besoin de se dire à elle-même, voilà, c'est vérité, tout le monde le croit, mais on va se dire à nous-mêmes que c'est une vérité précieuse, un trésor qu'il faut définir et mettre en lumière.
Quelles vont être les conséquences de ce dogme de l'Immaculée Conception, frère Marie, Olivier ?
Alors, la conséquence, c'est qu'on va mieux comprendre comment ce privilège de Marie d'être conçu dès le premier instant de sa vie, son existence sans péché, est relié à la grâce de la maternité divine. Ouais. Si Marie est conçue de manière immaculée, c'est parce qu'on ne pouvait pas imaginer que cette terre vierge, qui est la chair de la Vierge Marie, puisse accueillir la sainteté de Dieu lui-même en étant marquée par le péché. Et saint Augustin, au IVe siècle, s'écrit « Quand on parle de la Vierge Marie, je ne veux pas qu'il soit question de péché. » Alors, le pape, dans ses définitions, nous dit « De fait, dans le plan de Dieu, Marie est prédestinée, et avant l'heure, avant même l'événement de la Passion, de la Croix, de la Résurrection, qui nous sauve du péché, Marie est sauvée par préservation, par mode d'anticipation, en prévision des mérites du Christ.
Quelle est l'originalité au fond ?
Eh bien justement, le paradoxe, c'est ça,
c'est
que
ça.
Marie,
oui,
avant l'heure de la croix, est sauvée par la croix.
Il y a un peu de folie et d'incompréhension, vous permettez ?
Alors,
il y a un grand mystère.
Mais il y a une certaine cohérence et logique dans le plan de Dieu. Alors c'est vrai que longtemps, l'Église va buter sur l'explication de la conception immaculée de Marie. Que Marie soit sainte et sans péché, Pas de problème. Mais comment est-ce possible? Comment l'expliquer? Comment en rendre compte théologiquement? Eh bien, depuis le 14e siècle, hein, les théologiens vont réfléchir, vont discuter. Et puis, au 20e siècle, eh bien, les choses sont mûres. Enfin, au 19e siècle, plutôt, les choses sont mûres. Et on va justement dire, eh bien, comment est-ce possible? Parce que il n'est pas impossible à la puissance de Dieu de sauver par anticipation, hein, une créature qui deviendra la mère du Messie, hein, la mère du Verbe incarné. Alors autant pour nous, la rédemption, la croix, la résurrection qui nous sauve, la rédemption est réparatrice, puisque nous naissons avec l'héritage du péché originel, autant pour Marie, la rédemption est préservatrice, vous voyez. Elle est préservée des conséquences du péché originel.
Alors, on va redéfinir, ne pas confondre aussi avec la virginité de Marie.
Voilà. Ah oui, parce que
oui.
Parfois des ambiguïtés,
alors,
effectivement.
Alors, oui, est-ce que vous pouvez donc...
L'Immaculée Conception désigne la conception de Marie qui est préservée, exempte de toute tâche du péché originel. Et dans beaucoup d'esprits, même catholiques, il y a parfois des confusions avec la grâce de la maternité divine et pour certains, la conception immaculée ou l'immaculée conception désignerait la manière dont Marie va concevoir le Christ. Ça, c'est autre chose. Ou alors encore une autre confusion, ça renverrait à ce privilège marial aussi de la virginité perpétuelle de Marie avant, pendant et après l'enfantement. Puisque dans la tradition catholique, dans la foi de l'Église, le corps de Marie reste vierge et elle conçoit par l'opération du Saint-Esprit, mais elle enfante aussi dans l'esprit, de manière miraculeuse, sans que sa virginité soit atteinte, son intégrité même physique soit atteinte. C'est le miracle de la naissance virginale du Christ, avant, pendant et après. Mais ça, c'est encore autre chose. L'Immaculée Conception désigne bien, qu'on se le dise, la manière dont Marie elle-même est conçue dans le sein de sa mère Anne.
C'est-à-dire, ce qui explique que Marie est unique.
Unique.
Et dans ce plan de Dieu.
Unique. Vraiment unique.
Il n'y en a pas deux comme Marie.
Pas deux. C'est la seule créature qui renoue finalement avec les origines de l'humanité, créée en l'état d'innocence et de grâce, que le péché d'Adam va saccager. C'est la seule qui, depuis ce qu'on appelle l'ère post-lapsaire, l'ère après la chute originelle, la seule qui va rompre vraiment l'enchaînement de génération en génération de la transmission du péché
originel. C'est la nouvelle Ève.
Exactement, la nouvelle Ève qui se substitue à l'ancienne Ève et qui va, dans sa personne, porter cette nouvelle création, ce paradis perdu depuis la chute de nos premiers parents. Dans sa chair, Marie fait refleurir la sainteté des origines.
L'étrangeté aussi. L'étrangeté de ce vocable aussi de l'Immaculée Conception.
L'étrangeté, c'est vrai que c'est du jargon théologique.
Et pour ceux qui peut-être découvrent aussi parmi les auditeurs.
Pour ceux qui sont pas familiers.
C'est plus que du jargon, c'est un vocabulaire bien particulier.
Très technique.
Très technique.
C'est vrai.
Donc, comment s'y retrouver? Comment retrouver aussi l'auditeur derrière peut-être son poste radio qui découvre plus en profondeur peut-être ce terme autour de l'Immaculée Conception?
Alors c'est vrai que ce terme-là, on ne le comprend que par rapport au péché des origines. Vous voyez, la Genèse nous révèle que Dieu crée ce monde dans la grâce, dans l'harmonie. Mais il révèle aussi que ce péché de nos premiers parents va rompre cet équilibre, cette harmonie de l'homme avec lui-même, avec Dieu, avec la nature. Et le péché va régner dans le monde, et la mort aussi, qui est le salaire du péché. Avec Marie, sa conception immaculée, justement, inaugure cette nouvelle création que Dieu veut pour l'humanité. Et Marie est la première des rachetés, la première de ce monde régénéré.
Elle vient un peu réconcilier l'homme avec le Créateur.
Oui, puisque elle, dans son consentement à l'Annonciation, à ce projet de Dieu, va pouvoir, au nom de tous et pour tous, inaugurer la nouvelle alliance dans le sang de Jésus.
Alors, pour faire un résumé court, simple et bref pour l'auditeur, c'est peut-être le jour de l'Annonciation, le 25 mars, et ce oui de la Vierge, ce fiat qu'elle va donner, qu'elle va avoir, je dirais, pour mission particulière, maternité particulière, avec ce grand oui de racheter le monde de ce péché.
Oui. Ouais. La grâce de l'Annonciation, c'est une grâce pour Marie, mais pour le monde entier.
Donc, parce qu'elle dit oui. Ce jour de l'Annonciation est une grâce pour l'humanité.
Pour l'humanité. Marie dit oui au nom de toute l'humanité. Et elle va porter en elle toute l'Église au fond, dans ce oui initial, qui va permettre à l'Église un jour d'advenir et d'exister. La première, l'Immaculée, mais la mère de notre vocation à la sainteté, qui se réalise totalement en Marie et dans le temps, plus ou moins heureusement, dans nos pauvres vies.
Merci, frère Marie-Olivier Guillon. On va un petit peu réfléchir. On va laisser aussi les auditeurs méditer peut-être sur ce terme et ce vocable de l'Immaculée Conception pour y revenir encore un peu demain, si vous voulez bien.
Très bien.
Merci, frère Marie-Olivier Guillon. À demain.